Zit avait trouvé le moyen de rejoindre en taxi son hôte définitif. Cette expérience eut un tel retentissement au sein de la communauté scientifique internationale que plusieurs laboratoires décidèrent eux aussi de la réaliser. Ils voulaient s'assurer que tout avait été fait dans les règles de l'art et que leur propre souris de laboratoire confirmerait bien les résultats. Depuis, l'expérience est considérée comme inattaquable. La seconde vague d'expérience permit en outre de mettre en évidence que seule disparaissait la peur ressentie devant les chats, tandis que l'urine de chien continuait de donner des sueurs froides aux rongeurs. Les résultats donnèrent lieu à des débats houleux. Comment de minuscules parasites pouvaient-ils influencer à ce point le comportement de petits mammifères ? Mourir ou ne pas mourir ? C'est quand même une question de première importance, à laquelle un organisme moderne devrait pouvoir répondre de plein droit sans avoir à prendre en considération l'opinion de vulgaires parasites. À moins que... Du petit mammifère au gros, c'est-à-dire l'homme, il n'y avait qu'un pas. Allait-on aussi trouver parmi nous des candidats qui se mettaient dans des situations difficiles par le biais de mauvais réflexes, de réactions faussées ou trop intrépides, souffrant ainsi d'une sorte de syndrome de la pâtée pour chat? Pour commencer, on organisa des prélèvements sanguins sur les conducteurs impliqués dans des accidents de la route. L'idée était de savoir s'il y avait plus de porteurs de toxoplasme parmi les froisseurs de tôle que dans le reste de la population non accidentée. La réponse est oui. La probabilité d'être impliqué dans un accident de la route est plus élevée quand on est colonisé par des toxoplasmes. Surtout quand l'infection bat son plein et moins quand elle est dans sa phase latente. Telle fut la conclusion de trois études modestes, mais aussi d'une étude de grande ampleur portant sur 3890 participants tchèques. Dans le cadre de cette expérience, on commença par prélever du sang et tester la présence de toxoplasmes sur tous les sujets. Dans les années qui suivirent, on évalua tous les accidents de la route des 3890 participants, ce qui permit de mettre en évidence des facteurs de risque. En tête du classement, une infection massive au toxoplasme couplée à un groupe sanguin spécifique, rhésus négatif. En matière d'infection parasitaire, les groupes sanguins peuvent en effet jouer un rôle décisif. Certains groupes sont mieux protégés que d'autres. Bon, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il de notre jeune femme et de sa lame de rasoir? Pourquoi la vue de son propre sang ne l'effraie-t-elle pas? Pourquoi l'incision pratiquée dans la chair, les tissus et les nerfs n'est-elle pas ressentie comme douloureuse, mais comme revigorante? Comment la douleur peut-elle ainsi devenir le piment d'un pain quotidien autrement trop fade? Il y a plusieurs tentatives de réponse à cette question. L'une d'elles se fonde sur les toxoplasmes. En cas d'infection au toxoplasme, le système immunitaire active une enzyme, IDO, pour nous protéger des parasites. Celle-ci résorbe alors en quantité accrue une substance dont les envahisseurs se nourrissent et les force ainsi à entrer dans une phase de somnolence et d'inaction. Malheureusement, la substance en question est aussi l'un des ingrédients permettant de fabriquer la sérotonine. Petite piqûre de rappel, pas assez de sérotonine égale état dépressif ou anxieux. IDO faisant son possible pour affamer le parasite, le cerveau va manquer de sérotonine et notre humeur risque d'en pâtir. En outre, des produits précurseurs de la sérotonine qui auront été grignotés peuvent s'acoquiner avec certains récepteurs du cerveau où ils déclenchent, par exemple, des états léthargiques. Ces récepteurs sont aussi ceux qu'on vise avec les analgésiques, le résultat étant une indifférence à la douleur. Pour mettre fin à cette anesthésie et ressentir à nouveau quelque chose, peut-être faut-il alors recourir à des mesures plus drastiques. Notre corps est un corps intelligent. Entre risque et profit, il sait faire la part des choses. S'il s'agit de combattre un parasite dans le cerveau, eh bien, soit, nous serons de mauvaise humeur. L'activation de l'enzyme IDO est le plus souvent un compromis de cet ordre. Le corps l'utilise aussi pour mettre au régime certaines de ses cellules. Pendant la grossesse, par exemple, l'enzyme est plus active, mais uniquement au point de contact avec l'enfant à naître. Le rôle d'IDO est alors de couper les vivres aux cellules immunitaires qui travaillent dans le coin. Elles sont ainsi moins efficaces et plus tolérantes vis-à-vis du bébé qui constitue pour moitié un corps étranger. L'état de léthargie déclenché par IDEO serait-il suffisant pour conduire au suicide? Autrement dit, que faut-il pour que nous envisagions le suicide? Où un parasite devrait-il commencer son œuvre pour désactiver la peur naturelle de ce qui nous nuit? La peur est associée à une partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale. Il existe des fibres nerveuses qui relient directement les yeux à cette zone, de sorte qu'en voyant une araignée, nous pouvons immédiatement éprouver de la peur. Même quand le centre de la vue a été détruit suite à un traumatisme au niveau de l'occiput et qu'on est aveugle, on ne voit plus l'araignée, mais on la ressent toujours. Notre amygdale est donc fortement impliquée dans l'état anxieux. Qu'on lui porte atteinte et le sujet touché peut devenir un vrai casse-cou. L'examen des hôtes intermédiaires, hébergeant des toxoplasmes, montre que les appartements où hibernent les minuscules gêneurs, se trouvent le plus souvent dans les muscles et le cerveau. Au niveau cérébral, on les retrouve, par ordre décroissant de fréquence, dans l'amygdale, dans le centre de l'olfaction et dans une troisième zone du cerveau située juste derrière le front. Comme on l'a vu, l'amygdale est chargée du sentiment de peur, tandis que la colonisation du centre de l'olfaction pourrait expliquer l'intérêt soudain des rats pour l'urine de chat. La troisième zone évoquée est plus complexe. À chaque seconde, cette partie du cerveau crée des possibilités. Prenons un sujet relié à tout un tas d'électrodes et posons-lui des questions sur la foi, la personnalité et la moralité, ou encore plaçons-le face à une tâche cognitive exigeante, et les scanners révéleront qu'on s'affaire beaucoup dans cette région du cerveau. L'une des théories émises par les chercheurs en neurologie et que cette zone, à chaque seconde, esquisse une multitude de scénarios. Je pourrais avoir la même religion que celle de mes parents, je pourrais me mettre à lécher la table pendant la conférence, je pourrais lire un livre en buvant une tasse de thé, je pourrais mettre des chaussettes aux chiens, je pourrais chanter une chanson devant la caméra, je pourrais donner un coup d'accélérateur pour atteindre les 150 km/h, je pourrais prendre cette lame de rasoir. À chaque seconde, des centaines de possibilités, certaines étant sélectionnées pour devenir réelles. Un parasite bien inspiré aurait toutes les raisons de venir s'installer ici. Depuis cette base, il lui serait peut-être même possible de renforcer des tendances autodestructrices, de sorte que ses impulsions soient moins souvent réprimées lors du choix de l'action à réaliser. La recherche ne ferait pas honneur à son nom si elle n'était pas effectivement allée chercher plus loin en répétant l'expérience si concluante de Joan Webster. Avec cette fois dans le rôle des rats, des êtres humains priés de humer différents types d'urines animales. Résultat, les participants, hommes et femmes confondus, hébergeant des toxoplasmes, n'évaluent pas le pipi de chat de la même manière que les sujets sans parasites. Et à l'intérieur du groupe même, les hommes l'apprécient nettement plus, les femmes moins. L'odorat est l'un de nos sens les plus fondamentaux. À la différence de ce qui se passe pour le goût, l'ouïe ou la vue, les impressions olfactives ne sont pas contrôlées sur le chemin qui les conduit à notre conscient. Étrangement, l'odeur est la seule impression sensorielle dont on ne peut pas rêver. Les rêves sont toujours sans odeur. Or, une odeur est capable de faire naître un sentiment d'attirance. Les toxoplasmes le savent, tout comme les cochons truffiers. Pour une truie, la truffe dégage la même odeur qu'un beau cochon mâle. Et si ce cochon torride s'est caché sous terre, alors ni une ni deux, la truie creuse pour trouver enfin le cochon de ses rêves. À moins que ce ne soit qu'un champignon dépourvu de toute sensualité qu'elle laissera, déçue, à son éleveur. Personnellement, je trouve que le prix élevé des truffes est tout à fait justifié quand on pense à la frustration de la truie découvrant l'antithèse de son prince charmant. Bref, ce qui est certain, c'est que l'odorat peut faire naître des attirances. C'est aussi sur cet effet que misent certains magasins qui pratiquent le marketing olfactif. Une marque de vêtements américaine utilise même des phéromones sexuelles. À Francfort, en Allemagne, On voit régulièrement des files d'ados faire la queue devant le magasin sombre aux parfums envoûtants. Dommage que la rue commerçante ne soit pas plus proche d'une zone où des cochons vivent en liberté. Ce serait sûrement l'occasion d'assister à quelques scènes assez marrantes. Si un autre être vivant peut faire en sorte que notre perception des odeurs soit ainsi modifiée, pourrait-il aussi être capable de générer de tout autres impressions sensorielles? Il y a une maladie dont le symptôme principal consiste en une perception sensorielle erronée. C'est la schizophrénie. Les patients ont par exemple l'impression que des fourmis leur grimpent sur le dos alors qu'il n'y a pas la moindre bestiole alentour. Ils entendent des voix, suivent leurs instructions et peuvent aussi être plongés dans des états de profonde léthargie. La schizophrénie atteint 0,5 à 1% de la population mondiale. Le tableau clinique est assez flou. La plupart des médicaments qui fonctionnent à peu près ont pour objectif de dégrader un messager chimique trop abondant dans le cerveau, la dopamine. Or, les toxoplasmes sont dotés de gènes qui interviennent au niveau du cerveau dans la fabrication de la dopamine. Les patients schizophrènes ne sont pas tous porteurs de parasites. Mais parmi les personnes touchées par la maladie, on recense à peu près 2 fois plus de personnes hébergeant des toxoplasmes que dans un groupe témoin ne présentant pas les symptômes de la schizophrénie. En théorie, Toxoplasma gondii pourrait donc nous influencer en agissant sur les centres cérébraux responsables de la peur, des odeurs et du comportement. Une plus forte probabilité d'accident, de tentative de suicide ou de schizophrénie chez les personnes porteuses du parasite indique que l'infection laisse des traces sur certains d'entre nous. Mais avant que de telles découvertes soient suivies de conséquences dans notre quotidien médical, il faudra encore du temps. Les hypothèses doivent être validées à 100%, les possibilités thérapeutiques étudiées de manière approfondie. Ce principe de précaution qui régit la science peut coûter des vies. Les antibiotiques, par exemple, ne firent leur apparition dans nos pharmacies que plusieurs décennies après leur découverte. Mais il peut aussi en sauver. Il suffit de songer au Contergan ou au Distilbène pour le comprendre. Les toxoplasmes ont plus d'influence sur nous que nous l'aurions cru il y a quelques années. Et cette découverte sonne une ère nouvelle. Une ère dans laquelle un banal caca de chat nous révèle tout ce qui peut déterminer notre vie. Une ère dans laquelle nous commençons à comprendre combien nous sommes intimement liés à notre nourriture, à nos animaux et aux minuscules peuples qui nous habitent. Un scénario terrifiant? Un peu peut-être, mais surtout passionnant. Pas à pas, nous allons pouvoir décoder des processus que nous devions jusqu'ici supporter comme des coups du destin. Nous allons pouvoir saisir à bras-le-corps les risques qui font aussi partie de notre vie. Il suffit parfois de peu, une litière propre, de la viande bien cuite et des légumes lavés. Les oxures, ingénieuses créatures. Continuons le tour d'horizon des fans de notre tube digestif avec Enteriobus vermicularis, également connu sous le nom d'oxure. Et pour ceux à qui tout cela ne dirait rien, soyons clairs, je veux parler des vers. Pendant des siècles, ils ont adapté leur comportement à notre petite personne. Un être humain sur deux héberge des vers au moins une fois dans sa vie. Certains ne le remarquent pas, chez d'autres, c'est un fléau insupportable dont on ose à peine parler. En jetant un coup d'œil au bon moment, vous pourrez même les voir vous faire coucou depuis l'anus. De couleur blanche, ils mesurent entre 1 cm et 1 cm et demi, avec pour les femelles une longue extrémité pointue. Ils font un peu penser aux traînées de condensation que laissent les avions dans le ciel, à la différence qu'ils n'ont pas la faculté de s'allonger indéfiniment. Pour être parasité par ce genre de ver, il suffit d'avoir une bouche et un doigt. Mais remontons d'abord le cours de la genèse vermiculaire. Voilà Madame Vert, enceinte et soucieuse d'offrir un bel avenir à ses petits œufs. Or, ce n'est pas si facile que ça. Pour pouvoir arriver à l'âge adulte dans le gros intestin, un œuf de ver doit d'abord être avalé par un humain et éclore dans son intestin grêle. Seulement, notre Madame Vert, qui est adulte, se trouve maintenant dans les contrées inférieures de l'intestin. Tout est contre elle, et surtout le sens de la digestion. La voilà donc qui se demande comment faire pour retourner à son point de départ, la bouche. C'est ici qu'intervient sans doute la seule forme d'intelligence connue chez un être vivant de ce type, la capacité à s'adapter. Quant à savoir si c'est de cette forme d'intelligence que découle l'expression « lèche-cul », il ne nous appartient pas d'y répondre ici. Les femelles vers devinent quand nous sommes au calme, allongées sans plus aucune envie de nous relever. C'est typiquement le moment qu'elles choisissent pour mettre cap sur l'anus. Elles vont alors pondre leurs œufs dans les plis et replis de notre fondement, puis exécuter une sorte de danse du dragon endiablé jusqu'à ce que ça nous démange. Aussitôt après, elles rebroussent chemin et filent se cacher dans l'intestin. D'expérience, elles savent que maintenant, la main va surgir et se charger du reste, la voilà qui se glisse sous la couverture et se dirige droit sur le point névralgique des gratouillis. Les mêmes voies nerveuses qui ont transmis la démangeaison se chargent maintenant de faire suivre ce message impérieux. Gratter ! Ce que nous faisons, et les descendants de nos vers sont alors conduits en train express jusqu'à des régions proches de la bouche. Quand n'avons-nous vraiment aucune envie de nous laver les mains après nous être gratté les fesses? Quand nous n'avons conscience de rien. Par exemple, quand nous dormons, quand nous sommes bien trop fatigués pour nous relever. Soit pile poil à l'heure où les femelles pondeuses passent à l'action. Tout le monde a compris où nous mènerait le prochain rêve de doigts trempés dans le plat de mousse au chocolat. C'est le retour des œufs au pays de leurs ancêtres. Que ceux qui détournent la tête d'un air écœuré se rappellent que nous mangeons aussi des œufs de poule. Bon, c'est vrai, ils sont plus gros et nous les faisons cuire avant. En général, nous nous montrons plutôt méfiants envers les êtres vivants qui se pointent dans notre tube digestif sans y avoir été invités et entreprennent d'y réaliser leur rêve d'une famille nombreuse. Nous n'osons même pas en parler aux autres. Comme si nous étions de mauvais maîtres de maison, trop conciliants, et que n'importe qui pouvait venir passer la nuit chez nous sans nous demander notre avis. Mais les vers sont un peu plus attentionnés que ça. Ils nous réveillent pour une petite séance de sport matinale et ont ensuite la gentillesse de nous offrir un massage qui stimule notre système immunitaire. Et puis, ils ne sont pas du genre à taper dans nos réserves. Il vaut mieux éviter de les héberger en permanence. Mais on peut leur offrir l'hospitalité une fois dans notre vie. Les scientifiques supposent d'ailleurs que l'oxurose chez l'enfant protège ensuite de l'asthme sévère ou du diabète. Par conséquent, monsieur et madame Vert, bienvenue à vous. Mais attention à ne pas trop abuser non plus. Une infestation incontrôlée peut en effet avoir trois conséquences pas très marrantes. Premièrement, quand on dort mal la nuit, on a du mal à se concentrer la journée. On est nerveux ou plus sensible que d'habitude. Deuxièmement, ce que les vers ne veulent pas, et nous non plus du reste, c'est prendre la mauvaise route. Quand les vers ne restent pas là où ils devraient être, il faut s'en débarrasser. Qui voudrait d'un ver doté d'un si mauvais sens de l'orientation? Troisièmement, les intestins sensibles et les vers hyperactifs ont tendance à avoir les nerfs à vif. Plusieurs réactions de cause à effet. Trop rarement sur la cuvette, trop souvent sur la cuvette, maux de ventre, maux de tête, nausées, ou rien de tout cela. Un autre qui se sentirait concerné par l'un des trois points cités n'a plus qu'une chose à faire. Prendre rendez-vous chez son médecin. Ce qui nous permet de découvrir une utilisation inédite du scotch. Selon le degré de délicatesse du médecin, l'essentiel tient en ces mots. Vous écartez les fesses, vous collez un bout de scotch sur l'anus et tout autour, ensuite vous décollez le tout et vous nous rapportez ça ici. Janine s'en occupera. Bonne journée. Un œuf de verre, ce n'est après tout qu'une petite bille inoffensive dont le ruban adhésif ne fera qu'une bouchée. Si on avait un système de ce genre pour ramasser les œufs à Pâques, on gagnerait un temps fou. Et comme les œufs de verre sont nettement plus petits que les œufs en chocolat, mieux vaut ne pas perdre des heures à les chercher. Ce qui compte, c'est de lancer l'action papier collant de bon matin, car c'est le moment où la plupart des œufs ont été pondus. Et avant de ramasser les œufs, je vous en conjure, ni coup de balai, ni lavage à grande eau. La première chose qui doit entrer en contact avec la pouponnière le matin, c'est le ruban adhésif. Au microscope, on pourra alors observer des œufs de forme ovale, striés en leur milieu s'ils sont déjà arrivés à l'état de larve. Après quoi, le médecin prescrit un médicament, le pharmacien vend le produit correspondant et la lutte contre les envahisseurs peut commencer. Le principe actif de ce genre de médicament, prenons par exemple le mébendazole, suit un schéma dont nous avons tous fait l'expérience dans la cour d'école. Le ver embête mon intestin, alors j'embête le ver de mon intestin. Le médicament commence son voyage par notre bouche. Destination, le rectum. En chemin, il rencontre nos squatteurs irrévérencieux. Eux aussi ont une bouche et des intestins, si bien que le médicament décide d'emprunter une nouvelle fois la même route. De la bouche au rectum. Le mébendazole a des effets cependant beaucoup plus néfastes sur l'intestin des vers que sur le nôtre. Il met les vers au régime en les empêchant d'assimiler le sucre. Or, les vers ont besoin de sucre pour vivre. Ce régime sera donc leur dernier. C'est un peu comme si on décidait de ne plus faire la cuisine à des invités devenus trop encombrants. Les œufs de vers ont une espérance de vie assez longue. En cas d'infestation, comme on ne peut pas toujours se lier les mains dans le dos pour ne pas les porter à la bouche, mieux vaut réduire au minimum la quantité d'œufs aux alentours. On change tous les jours de linge de lit et de linge de corps, on lave le tout à 60 degrés Celsius au moins, on se lave les mains et on essaie de remédier aux démangeaisons insupportables avec des pommades plutôt qu'avec ses 10 doigts. Ma mère préconise quant à elle une gousse d'ail par jour. Je n'ai trouvé aucune étude sur le sujet, mais il n'y en a pas non plus sur la corrélation entre la température mesurée dehors et la nécessité d'enfiler une veste. Et pourtant, ma mère a toujours raison sur ce point. Si rien de tout cela ne fonctionne, pas de panique. On prend une nouvelle fois rendez-vous chez le médecin et on est fier d'avoir un intestin qui a autant la cote. Chapitre 19. De la propreté et des bonnes bactéries. Nous voulons nous préserver de ce qui nous nuit. Il y a sans doute très peu de gens qui se déclareraient volontaires pour héberger des salmonelles ou un vilain hélicobactère. Même si nous ne les connaissons pas encore tous, nous savons déjà que nous ne voulons pas de ces bactéries patapouffantes, ni de ces germes à diabète, ni de ces microbes qui nous donnent le bourdon. Notre principale protection est la propreté. Nous faisons attention quand il s'agit d'aliments crus. Nous n'embrassons pas n'importe quel inconnu. Nous lavons à grands seaux d'eau chaude nos agents pathogènes. Mais la propreté n'est pas toujours ce que nous croyons qu'elle est. La propreté dans un intestin, c'est un peu comme la propreté dans une forêt. Même la plus ambitieuse des femmes de ménage renoncera ici à démontrer l'efficacité de sa serpillière. Une forêt est considérée comme propre quand elle est équilibrée du point de vue des plantes utiles qui la peuplent. On peut bien sûr y contribuer, en ajoutant d'autres plantes et en espérant qu'elles se développent bien, en repérant ses plantes préférées et en prenant soin pour qu'elles croissent et se multiplient. Il y a parfois de méchants nuisibles qui s'installent. Il faut alors peser le pour et le contre. Si rien d'autre ne fonctionne, on peut sortir l'arsenal chimique. Les pesticides font des miracles contre les nuisibles, mais ils ne sont pas à utiliser comme un simple déodorant. Au quotidien, déjà, nous devons penser intelligemment la propreté. Qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui relève plutôt de l'hystérie hygiéniste? Pour donner un coup de propre à l'intérieur de notre corps, nous disposons de trois nettoyants principaux. Les antibiotiques nous permettent de repousser les méchants agents pathogènes, tandis que les prébiotiques et les probiotiques favorisent ce qui nous fait du bien. En grec, probios signifie « pour la vie ». Les probiotiques sont des bactéries vivantes que nous ingérons dans le but d'améliorer notre santé. Quant aux prébiotiques, du grec « prébios » avant la vie, ce sont des aliments qui atteignent le gros intestin et vont alors nourrir les bonnes bactéries pour qu'elles se développent mieux que les mauvaises. Enfin, les antibiotiques, antibios, contre la vie, tuent les mauvaises bactéries qui nous veulent du mal et peuvent ainsi être salutaires. C'est du propre. La propreté est une notion fascinante, parce qu'elle relève surtout de la représentation que nous en avons. Un bonbon à la menthe nous procure un goût frais. Des fenêtres lavées paraissent claires et se glisser dans des draps propres après avoir pris une douche est un avant-goût du paradis. Nous passons volontiers la main sur des surfaces lisses. et quand nous utilisons des désinfectants, nous soupirons d'aise en pensant être à l'abri d'un monde de germes. Il y a 130 ans, l'Europe découvrait que des bactéries étaient à l'origine de la tuberculose. C'était la première fois qu'on prenait vraiment conscience d'elle, comme une menace dangereuse et, qui plus est, invisible. De nouvelles réglementations furent alors introduites en Europe. On isola les malades pour qu'ils ne transmettent pas leurs germes, on interdit les crachats dans les cours d'école, on proscrivit les contacts tactiles et l'on mit fin au communisme de la serviette de bain. En outre, on recommanda de réduire le baiser à sa plus stricte fonction érotique. Ces consignes peuvent nous sembler ridicules, mais elles sont encore aujourd'hui profondément ancrées dans nos cultures. Depuis cette époque, il n'est plus de bon ton de cracher. Nous ne partageons plus notre brosse à dents ni notre serviette de toilette avec autrui, et, comparé à d'autres sociétés, nous accordons plus d'importance à mettre une distance physique entre nous et les autres. Pouvoir éviter une maladie mortelle en cessant tout simplement de cracher dans la cour d'école, quelle formidable perspective! La règle inscrite au tableau noir devint une règle de vie en société. On rejetait celui qui ne s'y tenait pas et mettait ainsi en danger tous les autres. On enseignait à ses enfants à faire de même. Le crachat public devint tabou. À l'inverse, les efforts de propreté étaient félicités et l'on s'efforçait de mettre de l'ordre dans une vie sinon vouée au chaos. L'entreprise Henkel, notamment présente dans le secteur des produits détergents et de l'entretien de la maison, formulait les choses ainsi. La